Et pour cela, je vous invite en fait à ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux. Hébreux chapitre 8, qui va nous rappeler ces deux positionnements de voiture, va nous rappeler ce que Christ a fait, la première voiture, chapitre 8, et chapitre 10, on va regarder ensuite, et ben, du coup, nous, comment on se place dans cette zone d'aspiration derrière lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ce matin, c'est toi qui nous invites. C'est toi qui nous convoques. Ce n'est pas nous qui essayons de te faire venir. Ce n'est pas nous qui essayons de te forcer la main. Mais c'est toi qui nous dis et qui nous rappelle que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et ensemble, on veut écouter ta parole, se laisser façonner, encourager, reprendre par elle. Merci parce qu'on n'est pas seul, on est en église, Seigneur. Merci parce qu'on est ensemble. Et fais ton œuvre ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Hébreux 8. Je vais me retourner parce que c'est trop petit. Alors voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui siège dans le ciel à la droite du trône de Dieu suprême. Il y a accompli le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non pas par des hommes, mais par le Seigneur. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de bien meilleures promesses. Amen. On regardera le chapitre 10 ensuite, mais déjà regardons à cette réalité, ces principes que l'on connaît tous en généralité, et pourtant, des fois, dans le vécu, on ne place pas forcément notre confiance sur cette réalité-là. Des fois, on place notre confiance davantage sur notre ressenti, sur notre perception, sur nos propres déceptions. Mais là, ce que nous invite le texte, c'est de nous rappeler ce que Jésus a fait et pouvoir mettre notre confiance sur lui. Et nous rappeler donc que Dieu est satisfait pleinement en Jésus pour trois choses, parce qu'il est le grand prêtre, parce qu'il a offert un sacrifice et parce qu'il y a une meilleure alliance. Chapitres 5 et 7, là dans le passage qu'on a dit, il y a marqué un grand prêtre comme celui-ci. Le comme celui-ci, ça fait référence au chapitre 5 et 7, qui nous rappelle que Jésus, dans son humanité, a été choisi par Dieu en tant que représentant pour nous et qu'il est saint. Donc en soi, on sait que lui, il peut être à la tête du peloton, il peut être la voiture de devant de nous parce que lui, il a le bon moteur qu'il faut. Et qu'en plus, il a été sélectionné par l'entraîneur. Mais plus que cela, il est aussi prêtre selon Melchisédek. Ce Melchisédek, cela veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il est prêtre pour toujours et qu'il est aussi le prêtre dans le sens qu'il n'est pas juste un prêtre, mais qu'il est roi, prêtre et prophète. Roi, prêtre et prophète, c'est les trois rôles qui étaient prévus par Dieu dans le Deutéronome pour permettre au peuple de vivre la présence de Dieu. Et ben, ces trois choses, ces trois fonctions, on les retrouve dans Jésus et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui nous amène dans l'obéissance à Dieu. Le prêtre, c'est celui qui va faire ce qu'il faut pour que il y a la relation entre Dieu et nous. Et prophète, c'est celui qui va nous parler avec vérité sur qui est Dieu et parler avec vérité sur quelle est notre situation actuelle. Et donc on peut s'appuyer sur Jésus parce qu'il est ces trois fonctions. Et en plus, comme on a dit, il vit pour toujours, parce qu'il est éternel, parce qu'il est Dieu. Alors nous pouvons nous baser là-dessus, on peut faire appel à lui pour se présenter devant Dieu. Nous rappeler que nous ne sommes pas acceptables, mais que lui a été accepté à notre place. Un meilleur sacrifice, parce que tout ce passage nous rappelle qu'il s'est donné une fois pour toutes. Dans Zacharie 3, verset 9, il y a un passage qui dit que Dieu va pardonner les péchés de son peuple en un seul jour. En un seul jour. Des fois, on a besoin de se le rappeler à nous-mêmes que le pardon, il est déjà acquis pour nos propres péchés, pour nos propres fautes. On voit que Jésus a fait un don de soi, qu'il a fait comme la promesse d'Ésaïe 53, qu'il est le serviteur qui se substitue à notre place. Et on voit que, comme on l'a déjà vu dans la Sainte Cène, il y a toujours besoin d'une effusion de sang, du sang qui coule, pour qu'on puisse entrer dans les promesses de Dieu. Et on voit que, comme Saint Augustin dit, il dit « Lui-même, à la fois Dieu, prêtre et victime, il a été le destinataire, le sujet et le moyen de la satisfaction. Lui-même, donc Jésus, à la fois Dieu, prêtre et victime, il a été le destinataire, le sujet et le moyen de la satisfaction. » Autrement dit, Dieu est satisfait. On n'a pas à se poser la question de quelle va être une bonne louange, quelle va être une bonne prédication. Même s'il faut faire on peut travailler à ce que ça soit le plus pertinent possible, mais c'est pas ça qui va rendre satisfait Dieu. Dieu sait par avance nos difficultés, nos luttes intérieures aussi. On n'a pas à porter un masque ou à essayer de dire on est le dimanche matin, alors hop, on met notre sourire. Mais on peut venir tel que l'on est parce que Dieu est satisfait. Et tout ce que l'on va faire, parce que la Bible va nous parler de faire des efforts, mais tout ce que l'on va faire va être dans cette aspiration derrière la voiture. Ça ne va pas être pour obtenir quelque chose de Dieu. Et cette meilleure alliance que Jésus nous donne, c'est que non seulement voilà, Dieu peut pleinement demeurer en nous, mais qu'on ne peut pas échapper à cette... On ne peut pas se soustraire à cette relation avec Dieu. Il dit « Je placerai mes lois dans les cœurs et je les graverai dans leurs pensées. » On voit que là aussi, Dieu fait ce qu'il faut pour que ça vienne en nous, pour que la réalité de Jésus qui soit en nous soit présente. Donc ça, c'est le petit rappel que vous connaissez déjà, mais qui est bon de se rappeler des fois, en se dire, bah tiens, quand mes sentiments me disent « je ne suis pas à la hauteur », quand mes sentiments me disent « faut d'abord que je me prépare avant d'aller au culte », la réalité, c'est qu'on peut venir dans notre état actuel, et on a besoin de venir dans notre état actuel pour faire appel à lui. Maintenant, regardons comment nous, on se place dans cette zone d'aspiration. Les chapitres 10 va nous dire deux choses. Va nous dire, bah, du coup, puisque Jésus a ouvert le chemin, bah, venons, ne nous privons pas de la présence de Dieu. Première chose. Deuxième chose, il va nous dire, mais persévérons. Il faut venir se placer dans cette zone d'aspiration. Il ne faut pas rester sur les gradins à regarder la voiture Jésus courir devant nous. Et nous, on se dit, bah, on n'a plus rien à faire. Lui, il a tout fait. Non, c'est à nous aussi de venir nous placer derrière lui. Donc, approchons-nous et persévérons. Regardons la première étape, approchons-nous. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Hop. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez en possession de richesses plus précieuses qui durent pour toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais le premier passage là de approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, l'assurance que donne la foi, le cœur purifié, le corps lavé. Des fois, pour moi, ça a sonné comme l'accès est ouvert, mais il y a quand même des critères à remplir. L'accès à Dieu est ouvert, mais il faut quand même que je sois un minimum en règle avec Dieu pour pouvoir y accéder. Et ça sonnait comme incohérent, comme culpabilisant. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas des choses que je dois faire. Mais je m'approche, c'est des choses qui me sont données grâce à ce que Jésus a fait. Un cœur sincère et droit, c'est pouvoir venir justement en reconnaissant mes manquements, en reconnaissant que j'ai besoin de Dieu, et en venant sans masque hypocrite, sans double jeu, sans essayer de faire valoir quelque chose devant Dieu. L'assurance que donne la foi, ce n'est pas ma dose de combien je suis sûr que Dieu va me recevoir, mais c'est plutôt être confiant que Dieu m'accueille parce qu'il y a eu le travail de Jésus devant moi. Donc même si moi je me sens sale, même si moi je me sens fatigué, pas à la hauteur, juste préoccupé par la vie de tous les jours, je sais que je peux y aller avec assurance en disant le chemin est ouvert. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, justement, c'est confiant que la mort de Jésus vient nous laver de toute culpabilité, de toute mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure, c'est confiant que Dieu s'est engagé et qu'il est à l'œuvre par son esprit pour continuer à enlever ce qui, en moi, n'est pas bon par l'action de son Saint-Esprit, par sa parole. Il y a encore récemment, j'étais pour une réunion de travail à Lyon, et c'était dans un immeuble de bureau. Donc c'est en général à l'accueil, il y a des portiques, et puis il faut montrer notre carte d'identité à la personne de l'accueil pour qu'elle nous donne un badge, qu'on puisse passer le portique. Mais des fois, avec Dieu, j'ai l'impression qu'on a peur d'être démasqué. On a l'impression qu'on y va timidement en disant « Est-ce que ça va s'ouvrir ou pas ? Est-ce que ma carte d'identité va être acceptée ?» Alors que justement, on peut y aller pleinement en disant « Voilà, je donne ma carte, mais je sais que je fais partie de telle entreprise, je fais partie de l'équipe Jésus, et lui, il est accepté, donc je peux rentrer. Donc je n'ai pas de souci à me faire, les portes vont s'ouvrir. » Et c'est pareil pour nous ce matin, dans ce temps de culte. Concernant la persévérance, se placer derrière la voiture qui va nous aspirer, ce passage nous parle de plusieurs choses. Il nous parle de rester attaché à l'espérance. L'espérance, on a eu une prédication de Amen là-dessus il n'y a pas très longtemps. Mais justement, pour rappeler que l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on espère qui va peut-être venir. C'est quelque chose dont on est sûr qu'il va venir. On est sûr que le retour de Jésus va venir. On est sûr que lui va venir mettre un point final à nos souffrances. Lui va pouvoir restaurer. Et qu'on est sûr que notre combat intérieur, nos luttes, nos tensions entre le fait qu'on vit quelque chose avec Dieu et puis en même temps on est encore imparfait, cette tension-là aura une fin. Et cette assurance-là doit nous encourager, peut nous encourager à persévérer, à continuer. Il y a aussi le fait de nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. On a besoin de prendre soin les uns des autres. Besoin d'être ensemble, besoin de s'encourager, de se relever. Et Dieu merci pour cette église où cela se pratique vraiment avec générosité. De pouvoir prendre soin les uns des autres, de pouvoir s'appeler, de prier ensemble ou juste dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Et si ce n'est pas le cas, bah justement, ne restez pas seul. On n'est pas fait pour rester seul. Et d'ailleurs, ne délaissons pas nos réunions, c'est l'encouragement qu'il y a là. Alors, ça, le Covid a eu un petit coup de... Je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais nous, en région parisienne, on a vu que ça a été l'occasion, finalement, pour plusieurs de dire « Mais en fait, je suis bien derrière mon écran. » Ou plutôt, en fait, pourquoi je viens à l'église ? Jusque-là, ils ne se posaient pas la question. Ils venaient parce qu'il fallait venir. Et ils n'avaient, entre guillemets, pas cette liberté-là de se dire ben, « Finalement, je n'ai peut-être pas envie de venir. » Et le Covid a mis un espace où, ben, finalement, certains se sont dit ben, « En fait, je viens, mais je fais juste de la figuration. » Et si je suis cohérent avec moi-même, je n'ai pas envie de venir. Et donc, qu'ils ne sont plus venus. L'appel qui est ici de ne pas délaisser les assemblées, ce n'est pas de venir et de faire de la figuration. Ce n'est pas de dire, bon, allez, je viens, je sais que ça va être en partie bien ou en partie frustrant, le temps de culte, selon qui prêche, selon qui fait la louange. Et puis, bon, allez, après, on rajoute une phrase évangélique qui dit, bon, allez, de toute façon, Seigneur... tu nous aimes tous, voilà. Ça c'est... Et puis finalement, on est dans de la résignation. Mais ce que ce passage nous appelle, c'est à ne pas être juste dans la résignation, la figuration, ou juste de quitter, mais à être pleinement présent. Pleinement présent pour participer à ce temps de culte. Et la persévérance, dans les versets, je ne sais pas si vous avez grincé des dents ou pas, le moment où il dit... il y a un risque de... Le passage où il dit « Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Ces passages-là ne sont pas là pour nous faire peur, ne sont pas là pour nous dire « il y a l'assurance du salut, mais peut-être pas finalement. » Ils sont là plutôt pour nous dire... je vais prendre une image. Une fois où j'allais au travail, je m'étais dit, oh, j'ai vraiment pas envie d'aller au travail. Et puis, en marchant, en allant au travail, je commence à imaginer, bon, et puis si je vais pas au travail, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, je commence à imaginer les conséquences, à dire, ah oui, du coup, il y aura pas de salaire, du coup, après, ça va amener des complications aussi pour la famille. Ou de la même manière dans le foyer. Des fois, on peut se dire, ah, on aimerait bien se soustraire à telle situation. On aimerait bien juste ne pas avoir à gérer telle situation. On aimerait se soustraire. Mais quand on pense aux conséquences, on se dit, finalement, ce chemin de fuite ne mène nulle part. Ce chemin de fuite a des conséquences qui sont trop lourdes. Et du coup, on se dit, bon, ben, ça nous encourage à persévérer. Ça nous encourage en disant, ben, je vais aller au travail. Je vais être présent dans mon foyer. C'est un peu ça que fait ce passage. C'est pour nous dire, voyez, si vous étiez de ceux qui ne marchent pas avec Jésus, voici les conséquences. Voilà où est-ce que ça mène. Et on voit que ça peut nous encourager en disant, bon, ok, l'enjeu est trop important, je persévère. Ce matin, j'aimerais donc qu'on puisse venir... et saisir ce temps de culte en étant pleinement présent. Qu'on puisse lâcher prise sur le fait d'essayer d'obtenir quelque chose de Dieu, lâcher prise sur le fait d'essayer d'obtenir quelque chose pour nous, mais de venir avec nos imperfections, de venir avec nos manquements, de venir avec nos besoins, de venir avec nos joies, mais de venir sincèrement. Et qu'ensemble, on peut aussi faire ces deux choses, à la fois regarder ce qu'a fait Jésus et nous émerveiller de ça, et à la fois nous placer derrière lui en disant « Ouais, ben oui, je suis imparfait, oui, voici ma semaine, oui, voici mon état de cœur ce matin, mais je viens et je veux être présent. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais je veux que toi, Seigneur, tu puisses nous conduire dans ce temps-là. » Seigneur, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que toi, tu as de bonnes choses en réserve. Merci parce que toi, tu, comme le Père prodigue, t'as déjà les bras ouverts, en fait. T'as déjà envie de nous accueillir, nous donner de bonnes choses, mais aussi nous accueillir dans ta présence. Seigneur, je veux te prier pour que là où des fois nous-mêmes on peut se connaître plein de choses sur toi, mais de ne pas arriver à vivre pleinement ta présence, Seigneur, ou pas arriver à prier, pas arriver à... Seigneur, que ces barrières puissent être ôtées ce matin, parce que tu as déjà fait tout ce qu'il fallait, Seigneur, pour que ça soit ôté. Alors, ne nous mettons pas des barrières là où il n'y en a pas. Mais qu'on puisse pleinement être présent dans ce temps avec toi, avec nos frères et sœurs, et que toi, tu puisses conduire tout ce temps, Seigneur. Amen.